Bienvenue au Polysécure épisode spécial Sécure. Je suis accompagné d'Alexandre. Comment vas-tu?
Oh, je vais super bien. On est dans un cadre fabuleux.
En plus, oui, on a décidé de l'enregistrer en présentiel, ce qui est un cas plutôt rare dans notre cas. On va revenir sur la présentation que tu as faite au Sécure, qui était essentiellement comment rater sa gestion de crise, qui était quand même très amusante en soi. Fait que j'invite les gens à aller la revoir, ceux qui ont encore les accès pour ça, s'ils ne l'ont pas vu, ou c'est disponible jusqu'au 2 juin sur la plateforme du Sécure. Mais cela étant, on n'abordera pas vraiment le chose. On va plus parler de la genèse qui a mené à la création de cette présentation-là, parce que de là, il y a beaucoup de, je pense, d'éléments savoureux à aller explorer.
Ouais, par rapport à ça, ce que moi j'ai constaté depuis des années, c'est qu'en fait, on fait des conférences et au final, les gens n'écoutent plus les conférences. C'est tellement sérieux, c'est tellement plate qu'on a les, comment ça s'appelle, les slides qui sont gris-brun. Ce qui fait qu'au final, on écoute sans écouter. Mais ce qui est intéressant dans une conférence, c'est quand on ressort de cette conférence et puis qu'on ressort avec du contenu, avec des choses que l'on se rappelle, des choses qui sont marquantes. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti sur ce genre de conférence qui est complètement déjantée, qui est complètement différente de ce que l'on voit habituellement.
Oui, mais de toute façon, moi, je l'ai écouté, j'ai trouvé ça très drôle de voir toutes ces facettes de comment rater son incident, puisque comme je gère peut-être moins régulièrement maintenant, mais à une certaine époque, je gère régulièrement des crises ou des incidents. J'ai reconnu des éléments très intéressants. J'ai mes propres histoires de guerre par rapport à ce genre de choses-là. J'imagine que tu t'en es inspiré énormément de ce que tu as eu à voir au courant de ta carrière, justement pour démarrer toutes les choses, comment la rater de façon excellente.
Oui, parce que ce qu'on constate régulièrement en termes de communication, par exemple, il y a des choses qui sont énormes, qui sont réalisées et en fait qui sont complètement à côté de la plaque. Et quand on explique comment faire une bonne communication, bah les gens vont écouter poliment, mais c'est pas pour autant qu'ils vont appliquer. Mais quand on regarde les conséquences d'une mauvaise communication, et bah tout de suite, là, ça vient beaucoup plus percutant. C'est pour ça que cette conférence, on l'a fait vraiment dans ce sens-là, pour faire en sorte qu'on ressorte en comprenant un petit peu l'impact de quand on fait une mauvaise communication ou quand on fait du déni ou quand on se presse pas pour, par exemple, déclencher une gestion de crise. Et clairement, ce qui ressort de cette conférence, c'est que les gens sont beaucoup plus conscients, en fait, que quand on explique vraiment comment faire ou les gens écoutent sans écouter.
Oui, ben, de toute façon, moi, c'est comme je mentionnais, j'ai vu des erreurs que j'ai moi-même produites dans certaines gestions de crise dans lesquelles j'ai faites ou que l'équipe de gestion de crise elle-même a eu quelques ratés. En général, c'est plus la communication que je vois qui est un élément qui est le moins bien maîtrisé en général. Je ne sais pas pourquoi, hein, d'ailleurs, pourquoi c'est si peu bien maîtrisé que ça, mais ça arrive justement à une situation qui dégénère, puis tu avais des exemples quand même très intéressants de places qui ont géré et des fois même de rattraper. Dans un cas, tu avais mentionné Samsung qui s'était rattrapé en cours de chemin. Donc ça, c'est comme tu mentionnais qu'il y avait les premières classes qui ont justement raté le fait de rater leur gestion de crise en récupérant la situation, là.
Et puis oui, bah tiens, je rebondais sur ce que tu dis, parce qu'en effet, dans les conférences, quand on les fait comme ça, il y a toujours des premiers de classe qui ont une gestion de crise, qui l'ont testé dernièrement, etc. Ceux-là, on les vire, on les sort de la salle, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Moi, je veux que des cancres, parce que sinon, on ne rate pas une gestion de crise. Et c'est ça qui est intéressant. L'objectif, c'est de rater sa gestion de crise. Donc, si on a des premiers de la classe, on les vire dehors, ça ne sert à rien. Pour revenir plus sérieusement sur pourquoi est-ce que si on a fait dans ce sens-là, c'est que les mises en situation, pour moi, c'est ce qui fonctionne le plus vis-à-vis des clients. Quand on explique comment bien faire les choses, en fait, les clients, ça marche pas. Mais par contre, quand on les met dans une situation et puis qu'on pousse à l'extrême d'une situation, quand on parle, par exemple, de la communication et qu'on leur met le nez dans le caca, là, et puis qu'on prend le rôle d'un journaliste qui les peinture dans le coin, là, et qu'est-ce que c'est percutant, qu'est-ce que c'est, ça marque, hein, et clairement la personne, il n'y a pas besoin de lui donner un cours sur la communication pour qu'elle comprenne que dès qu'elle va dire une connerie là, ça va se retourner sur elle. Et donc de le tourner comme ça sur l'humour là, ils le comprennent, c'est fabuleux.
Ouais, ben c'est justement, mais comme ça a eu cet effet là sur moi, ça a eu l'effet sur les autres aussi, de pouvoir justement se remémorer des gestions de crise qu'on a eu à être impliqué d'une façon ou d'une autre, et justement où les choses n'ont pas bien réussi. Puis tous ceux qui ont touché moindrement une gestion de crise dans de tous les temps ont constaté que ces éléments-là sont présents. Donc, justement, de venir interpeller nos souvenirs sous l'humour, parce que quand même, il faut être bienveillant un minima. C'est très intéressant, justement. Puis t'en as amené huit, justement, huit facettes à cet élément-là de comment on la rate. Et dans tous les cas, j'ai pas vu une crise qui a réussi à ne pas tomber dans le piège d'un des huit.
Ah, c'est clair. Et c'est rigolo parce que dans cette conférence-là, enfin, moi, je suis un professionnel de la continuité et de la gestion de crise. Donc, normalement, c'est de faire les choses correctement. Et quand je fais cette conférence, je dis complètement le contraire de ce qu'il faut faire correctement. Donc, c'est vachement difficile pour moi. C'est pour ça qu'à chaque fois, au début de la conférence, j'ai un petit moment de blanc parce que j'ai besoin de me concentrer pour dire des conneries. Et donc, c'est tout le long, à chaque fois que je dis des conneries, là, c'est toujours difficile et parfois... Je reprends le côté premier de la classe et franchement, ça marche pas, quoi. Donc, moi-même, je mets une petite tape derrière la tête en me disant, oh, non, on est mauvais, on est mauvais. Donc, c'est vraiment intéressant dans ce sens-là. Et quand tu parles de retour d'expérience, hein, ce qu'on constate aussi, et c'est une des bonnes façons de rater sa crise, hein, c'est quelque part le déni, c'est de prendre du temps pour dire non, c'est pas une crise, c'est un incident, on va pouvoir le gérer à notre niveau là. Et ça, c'est super efficace quand on veut foutre en l'air en fait sa gestion de crise. C'est surtout gérer ça dans votre coin, parlez-en en personne, essayez de bricoler deux, trois trucs, genre des trucs qui pourraient encore foutre un peu plus la merde. Hein, et là, ça peut être encore intéressant, vous êtes sûr de la rater.
Oui, puis ce que je ne comprends pas encore maintenant, parce que on a eu, on va prendre à partir du début du confinement, toutes les ratés, les ratés de gestion du confinement lui-même a déjà été quelque chose d'assez spectaculaire de point de vue mondial. Chaque pays a eu les ratés spectaculaires en ce sens-là. Personne n'a appris rien. Et même après ça, on tombe en crise plus cyber. Les gens continuent à répéter les mêmes erreurs. On a eu un cas de... Bon, puis on a la série Autopsie d'une crise qu'on fait régulièrement. On a eu Sobeys, par exemple, un cas récent, qui était une belle démonstration de comment rater sa gestion de crise. Mais de façon spectaculaire, c'est vraiment... C'est des premiers de classe pour rater leur gestion de crise. Dans ce cas-ci, c'est... Mais pourquoi? Et je ne comprends pas. Encore de nos jours, ils s'entêtent à faire ces choses-là qui, pourtant, on le sait tous. C'est pour ça que l'humour marche bien. On sait tous que ça devrait pas se faire comme ça, mais ils le font quand même. Ils s'entêtent quand même. C'est fascinant.
Ouais, c'est fascinant. Je sais pas non plus pourquoi, mais je pense que c'est peut-être qu'ils veulent premier de classe. Parce que parler en bien, parler en mal, mais parlez-en. Et peut-être qu'ils sont dans ce modèle-là et plus on va faire une gestion de crise de merde, plus on va se rappeler. Et en effet, Sobeys, dans 10 ans, on pourra en parler comme quoi ils ont été mauvais. Mais qu'est-ce qui va ressortir? Sobeys, c'est une société qui permet de faire un certain nombre de choses. Donc, on va se rappeler du nom de la société, pas forcément de la crise qui a été derrière.
Peut-être. J'imagine que les dirigeants ne sont pas punis de façon conséquente par rapport à ce genre de situation-là. Et j'en ai pas vraiment vu de situation où les gestionnaires ont été punis. Desjardins, il y a eu quand même quelques éléments qui en sont sortis. Parce que bah, depuis le temps, ça a beaucoup coulé, mais il y a eu quand même une restructuration importante chez Desjardins suite à l'incident de 2019. Mais c'est un cas qui est en marge des autres, que la gestion ouverte et sur la place publique est plutôt rare. Eux sont des premiers de classe, sont pas les cancres qu'on voit encore maintenant. Fait que même après qu'une compagnie comme ça ait fait une gestion, même on pourrait dire comme la STM à Montréal, qui a été quand même très ouverte aussi également sur sa gestion de crise pour durant son logiciel, c'est la minorité. Ça ne fait pas partie de l'ensemble de l'environnement dans lequel on vit maintenant. C'est une forme d'entêtement mystérieux.
Oui, c'est complètement mystérieux. Alors qu'on le sait pertinemment et en communication, c'est assez énorme. C'est que plus tu caches les choses, plus elles vont se voir. Et ça, ils ne le comprennent pas. Et à chaque fois qu'on voit une crise, les premiers mots, c'est « Oh, on a un petit problème technique, ça va se régler incessamment sous peu. » Mais ils le savent très bien qu'ils sont dans la merde. Ils le savent très bien que ça va prendre plusieurs jours. Mais non, ils s'entêtent dans ce genre de communication à la con là, qui a aucun sens.
C'est encore d'autant plus drôle parce que ça a l'effet Streisand, c'est-à-dire que plus ils s'entêtent à dire ce qui n'existe pas, plus ils attirent l'attention sur eux autres. Et donc, ça aggrave la perception publique du dérapage de gestion parce que c'est pas... Puis même, il y en a qui sont allés jusqu'à poursuivre pour justement faire taire, dans lequel ça a multiplié, là, comme qui est techniquement le vrai effet Streisand. Elle a décidé de poursuivre des journalistes qui avaient pris des photos. Et donc, de ce fait-là, ben, tout le monde s'est attiré et tout le monde a fait ça. Fait donc, cet effet-là de multiplication est généralement peu maîtrisé par les gens. encore de nos jours, dans l'univers des médias sociaux, où tout bouge vite, toute rumeur s'amplifie de façon phénoménale.
Là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, là, c'est qu'en effet, là, on persiste dans quelque chose et en fait, on n'apprend pas de ce que l'on vit. Et d'une entreprise à une autre, ils n'apprennent pas, en fait, alors qu'il y a des choses qui sont flagrantes. Ça prenait le premier point, hein, c'est « soyez pas prêts », en fait. Et on le sait, dans les cyberattaques, de plus en plus, il y a une entreprise qui est attaquée, on est quasiment sûr qu'elle va se faire réattaquer une fois ou deux fois encore derrière. Et pourtant, ça continue quand même et on n'apprend toujours pas. C'est ça touche de la stupidité. Il y a un moment ou un autre, c'est plus qualifiable, quoi. À croire que, en fait, les entreprises veulent se planter.
Oui, c'est ça. Cette forme d'aveuglement-là est très particulière parce que c'est comme si ils ne voyaient pas ce qui se passait ailleurs. C'est comme si eux étaient spéciaux, eux étaient différents. On a comme cet élément-là à quel point l'univers tourne autour d'eux. C'est quasiment du narcissisme. À la limite, là, si on a une personne fière en tant qu'humain, c'est du narcissisme parce que les autres ne voient juste rien d'autre. Ils ne voient qu'eux, puis eux sont magnifiques, eux sont comme ça, mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Là, en tout cas, la réalité de la menace cyber est vraiment tout autre. Là. Puis tu le mentionnais aussi, bien, plus la fin de la conférence, c'est pas la fameuse phrase, c'est pas quand tu vas s'attaquer, bon, bref. Mais les attaques sont constantes. On vit dans un environnement hostile et très hostile. C'est aussi ce que les gens ne maîtrisent pas, c'est que et toutes puis probablement la plupart des vulnérabilités publiques qu'on entend, ou en tout cas les classiques, c'est probablement juste des cibles d'opportunité. C'est juste que leur sécurité était tellement faible que les malveillants sont rentrés comme un couteau chaud dans du beurre mou. Ils sont rentrés, puis ils ont vidé, puis ont fait de la communication. Ensuite, ils ont fait du bruit avec ça. Et des fois, ils ne le font pas tout de suite. Des fois, ils vont attendre des mois, des années avant de communiquer. Là. Tu sais qu'on est dans un univers très, très particulier.
Ouais. Je ne sais pas ce que ça peut donner dans l'avenir, ce genre d'entreprise-là ou ce genre de façon de faire. De plus en plus, le public est habitué à ce genre de cyberattaque. Donc, en fait, ça devient de moins en moins quelque chose d'exceptionnel. Et limite, la communication, les gens oublient, en fait. Quelque part, les gens oublient, ils oublient assez rapidement. Et ils pardonnent. Quand on voit, par exemple, la communication qui a été faite autour de Volkswagen sur l'histoire de pot d'échappement, y a plein de bagnoles Volkswagen qui s'achètent maintenant. Ils ne se rappellent pas, en fait, de l'escroquerie qu'il y a eu derrière tout ça. Donc, les gens oublient. Donc, ce qui fait que ça... Il y a une tolérance à la non-maîtrise de la communication qui se fait. Et puis, on avance là-dessus tranquillement. Et puis, on va gérer le moment présent. Le futur, on le verra. Il y a quand même des boîtes qui finissent par couler, là, mais la majeure partie des boîtes, au final, s'en sortent.
Dans les cas d'un incident de cette nature-là, oui. Il y a eu des cas plus dramatiques où ils ont perdu leur TI ou combien sont disparus pour d'autres raisons. Mais d'un point de vue communication, non. Au-delà du fait, même les gens oublient, les gens n'apportent même pas d'importance à ça. Ils ne se rattachent pas dans le cas de Volkswagen. Je pense pas qu'une personne va dire « Volkswagen, c'est une compagnie qui n'est pas fiable, qui a triché, donc j'achèterai plus ». Les gens n'ont juste même pas fait le lien entre les deux et continuent à acheter. Et ça, puis de toute façon, en même temps, les gens ne connaissent pas toute la portée de la marque parce que la marque possède beaucoup d'autres marques. Donc, je pense qu'ils n'ont même pas idée à quel point ces marques-là sont dans différentes choses. Donc, ça, c'est déjà un élément. Puis c'est pour ça aussi que le législateur a dû intervenir. En Europe, c'est la RGPD qui est un élément qui couvre un aspect, à mon sens, un peu trop restreint quand même, mais qui quand même vient baliser les règles avec des pénalités financières importantes. Le Québec a suivi, le Canada va suivre bientôt. On est en train de voir un peu dans l'Occident, n'est-ce pas, de démarche ou un chemin qui veut justement nous amener vers ce fait. Les législateurs, les pénalités qui sont associées à ce genre de choses-là. Mais encore là, à mon avis, il est encore trop tôt pour mesurer l'effet de cette législation-là sur... on va dire le meilleur comportement des entreprises, à savoir s'ils vont mieux communiquer, s'ils vont mieux faire, mais ça prend ce genre de choses-là, jusqu'à ce genre de choses-là pour que les entreprises commencent à prendre au sérieux la gestion de crise.
Mmh. Et ça, tu parles de sérieux de la gestion de crise et on s'en aperçoit. Déjà, la mise en place d'un plan de continuité d'activité, c'est le bout du monde. La gestion de crise, c'est quelque chose qui commence à peine en fait à vraiment bouger pour des entreprises parce qu'elles s'aperçoivent que si elles ne gèrent pas la crise, ben, ça devient compliqué. Donc ça commence un petit peu à bouger, mais ce n'est pas encore dans les mœurs. Ce n'est pas quelque chose qui est encore où les entreprises vont se précipiter là-dessus parce qu'on est toujours sur le modèle bon, on va attendre, on verra quand ça va venir. Ben, dans l'article de Romain Bouvet là, sur les biais cognitifs, pourquoi est-ce qu'en fait les entrepreneurs n'investissent pas dans leur cybersécurité et encore moins dans leur gestion de crise, ça explique qu'ils ont d'autres priorités. Et la priorité, c'est de faire tourner leur business. Donc tout ce qui va être gestion de crise, c'est on verra le moment venu. Et en fait, c'est déjà trop tard dans le moment venu. On arrive sur les huit bonnes façons de foutre en l'air sa gestion de crise. Bah, la première, c'est justement de ne pas se préparer. Et donc, c'est pour ça. Et on est vraiment en fait, dans ce cadre-là. Parce qu'il y a d'autres priorités dans les entreprises. Hein. Et la gestion de crise, la continuité des affaires, ce n'est pas une de leurs priorités. Leur priorité, c'est de développer le business, faire en sorte que l'entreprise continue à fonctionner au quotidien. Et le reste, on verra quand ça va arriver.
Oui, mais on a même encore là, on a vu des entreprises au Québec qui ont vécu où leur modèle de production a cassé à cause d'une crise de cette nature-là pendant plusieurs semaines, si ma mémoire est bonne. Donc, ça a quand même des impacts. Dans le cas de Sorbet, c'était la même chose où il y a eu quand même des impacts importants. Au niveau financier, c'est énorme la perte qu'il y a là, mais les actionnaires tolèrent ce genre de perte-là. Donc, ça devient comme une espèce, comme tu mentionnais, les gens ne s'en souviennent pas, ça devient comme une forme de tolérance. À ça. Il y a tout aussi l'effet des assureurs qui est là-dessus. T'en as mentionné dans le côté, genre les 9 éléments pour ne pas rater sa gestion de crise, parce que tu as quand même fait quoi les deux côtés. La cyberassurance est un élément important et les gens vont l'apprendre pour justement ne pas avoir à faire le vrai travail. Puis je crois que c'est là où les cyberassureurs ou les assureurs avec une police à la cyber devrait intervenir. Puis je pense qu'ils ont commencé, là, clairement, parce que les primes ont commencé à monter de façon très importante et avec raison. Puis les assurances sont allées de payer dans le bas. Mais en même temps, c'est de voir comment ce levier-là pourrait devenir justement un levier intéressant pour que, un financier, parce que là, les primes vont diminuer, plus le législatif de l'autre côté. Mais même encore là, ce que j'entends autour, les gens ne prennent pas ça au sérieux, mais c'est comme, puis tu sais, je suis un micro-entrepreneur là, en solo, un solopreneur, puis un peu comme toi, puis ma business, c'est ma vie. Fait que si je perds ma business, moi, je perds mon gagne-pain. Fait que de me retrouver dans une situation comme ça est insoutenable. Fait que j'ai de la misère à imaginer que des entrepreneurs n'aient pas ce même niveau de préoccupation face à la pérennité de leur entreprise, à la continuité, parce que c'est quand même leur gagne-pain, c'est quand même, il y en a beaucoup qui ont mis énormément d'énergie dans ça, puis ils sont prêts à laisser voir, prendre en feu, ou ils ne comprennent pas, c'est peut-être ça.
Mais ils ne comprennent pas. Moi, je vais rebondir sur ce que tu dis la dernière fois, c'est qu'ils ne comprennent pas. En fait, la seule façon de faire comprendre, c'est de les mettre en situation réelle. Ça fait partie justement d'un produit qu'on est en train de développer, là. C'est une simulation de crise que l'on offre gratuitement, là, pour des entrepreneurs pendant une heure, là, et on les met en situation. Vous avez votre système d'exploitation, enfin, pas votre système d'exploitation, mais votre système essentiel qui vient de tomber, là. Puis il y a le tour de table, justement, du directoire. Puis on les met en situation. Puis là, ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ah ouais, on va redémarrer nos serveurs avec les sauvegardes. Ouais, mais vos sauvegardes, elles sont chiffrées. Vous faites quoi? Et donc, on les pousse dans un retranchement. Et là, ils le comprennent parce qu'en fait, on le vit. Dans nos anciennes vies où j'étais coach, par rapport à ça, en fait, la seule façon qu'on pouvait faire avancer les choses, c'était de faire vivre des expériences qui n'étaient pas réelles, mais qui étaient simulées. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et puis le rêve, le simulé. Et donc, le fait d'amener ce genre de choses-là, là, ils le comprennent. Mais combien d'entreprises prennent le temps de se dire « Ok, je vais me mettre en situation pour bien comprendre comment est-ce que l'eau va être brûlante quand elle va sortir du bain ?» Et donc, ils ne font pas l'effort. Donc, c'est pour ça qu'on l'offre gratuitement, pour qu'ils le comprennent. Donc, une heure, c'est quelque chose de vraiment très, très court par rapport à ça. Parce qu'il faut qu'ils le vivent pour le comprendre. S'ils ne le vivent pas, ils ne le comprennent pas. C'est trop loin, en fait, de leur réalité. Perdre mon entreprise sur un incendie, mais il y a combien d'incendies de mes concurrents ? Il n'y en a pas. Combien d'entreprises autour de moi ont été cyberattaquées ? Ben, j'en connais pas, parce que de toute façon, on n'en communique pas. Donc, on reste dans un espèce de flou, dans un espèce de bulle en disant « mais ça n'arrive pas, parce que autour de moi, je n'ai pas d'amis qui se sont fait cyberattaquer. » Pourtant, il y en a plein, mais on n'en parle pas. Donc, du coup, en fait, pour un entrepreneur, il ne le voit pas, ça. Donc, il le voit quand il a les pieds dans la merde, et puis qu'en effet, tous ces serveurs sont bloqués. Là, ils le voient à ce moment-là, mais c'est généralement trop tard.
Ouais, c'est très abstrait, là, puis de toute façon, là, on prend dans le monde réel, les gens vont s'installer un système d'alarme dans leur maison qu'après se fait voler, pas avant. Mm. On est un peu dans ce rêve gentil que, dans lequel il n'y a rien de mal, il n'y a pas d'incendie, comme tu mentionnais. Quoi que maintenant, de toute façon, les normes obligent, ou il y a beaucoup de règles qui obligent les gens à s'assurer puis à prendre les mesures nécessaires même pour les incendies et ces choses-là, parce que, encore une fois, si les gens ne sont pas forcés à exécuter des mesures de base, ben, les gens ne font pas attention. Bon, l'histoire nous l'a montré combien de fois ou combien d'erreurs ça a pris avant qu'on apprenne. Là, on prend l'exemple des ponts, par exemple. Les ponts tiennent parce qu'il y a eu beaucoup de ponts qui sont tombés. Parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, puis au bout de maintenant, les gens maîtrisent ça parce que c'est fait comme ça. Puis d'ailleurs, c'est l'exemple que je reprends régulièrement. Si les ponts étaient construits comme nos systèmes TI, moi, j'irais sur aucun pont. Là. J'aurais tellement peur qu'ils tombent au moment où je passe dessus que j'éviterais possible. Mais les gens ne le perçoivent pas comme ça. Ils le perçoivent comme c'est magique, comme ça tient, comme ça. Jusqu'à temps que le désastre arrive, puis que là, ils perdent tout, ils sont malheureux. On a eu le code OVH, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait faillite parce qu'ils n'avaient pas présumé. Là, il y a eu des poursuites, puis ça s'est réglé de façon différente. Mais cela étant, les gens n'étaient pas prêts parce qu'ils n'ont pas signé le contrat de backup. Parce que c'est marqué pas de backup. Ah non, mais j'en veux pas, c'est pas grave. Ça a pris feu, là, il n'y a pas de backup. Ben, je fais quoi? Tu avais marqué pas de backup. Tu sais, je peux pas être pris responsable, là. Le système de justice français ne fonctionne pas exactement comme ça, fait qu'on est dans un autre univers, mais bref, il demeure que c'est comme ça, fait que des entreprises ont fait faillite. Fait que dans un contexte où on se laisse parachuter et on prend pas ça, mais dans le cas, tu sais, on pourrait plaider dans le cas d'OVH, il aurait dû être des bienveillants et être le père de Fagère, un bon père de famille, là, qui est très, très fort dans le modèle français, légal français. Puis c'est un peu ça qui les a coincés, mais cela étant dit, il aurait dû agir de cette façon-là, d'être bienveillant et d'assurer, mais il demeure que l'entrepreneur, ben lui, il l'a pas fait, là. C'est sa responsabilité. Non, ça arrive juste aux autres. Comme tu dis, il n'y a pas d'incendie, c'est pas grave. Ben oui, mais il y a un centre de données qui a pris feu. Ça arrive. Puis on le voit, puis en plus, avec les changements climatiques, c'est l'été dernier, été 2022. Il y a certains centres de données européens qui ont dû fermer en partie à cause de surchauffe parce que la capacité de refroidissement n'était pas suffisamment élevée pour maintenir le centre de données à pleine capacité. Donc, ça leur ralentit des traitements pour beaucoup d'entreprises, dont Azure, par exemple. Les centres de données Azure ont connu quelques ralentissements en Europe l'été dernier parce qu'ils n'étaient pas capables de refroidir à cause de la vague de chaleur qu'il y avait à ce moment-là. C'est toutes des choses qu'il faut. Ça, puis ce qui me fascine encore plus, c'est que les gens, pourtant les entrepreneurs, aiment beaucoup la technologie pour faire être plus performants, mais en même temps, ils ne se rendent pas compte que c'est comme une machine de production. C'est comme la machine qui a produit, fait que ça brise ses tristes, on va mettre des moyens pour pas qu'elle brise. Mais la technologie, l'ITI, c'est la même chose. C'est tellement imbriqué maintenant dans notre facturation, comptabilité, la gestion des machines, la gestion des inventaires, les ventes. Si ça arrête, comme dans le cas de BRP qu'on a vu, toute la chaîne de production arrête aussi. Là. C'est grave, c'est beaucoup plus important.
Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis là. Sur le dernier point, la notion de blackout en fait, informatique, hein, et on a fait un dossier sur le magazine. Prenons simplement l'exemple d'une carte de crédit en fait, d'un fournisseur Mastercard ou autre qui est indisponible. Hein. Ben en fait, tu ne peux plus retirer aucun argent liquide. Tu ne peux plus payer. Donc, si tu as besoin de faire ton plein d'essence, c'est foutu. Tu n'as plus d'essence. Si tu as besoin de faire ton épicerie, c'est foutu. Tu ne peux plus faire ton épicerie. Et ça, en fait, les gens ne s'en aperçoivent pas seulement quand il n'y a plus d'accès en fait, à la carte de crédit. Donc, combien de personnes ont de l'argent liquide sur eux? De moins en moins. Donc, on arrive en fait sur un système, hein, l'hyper-présence de l'informatique. Hein, on est totalement dépendant de l'informatique. On ne peut plus rien faire sans informatique. Ta montre, ton accès Internet, etc. Là, tu vas chercher ton réservation de train. Tu n'as plus d'informatique, tu es dans la merde. Tu veux prendre ton billet d'avion, c'est foutu. Donc, ça, il y a un enjeu qui est excessivement important. On ne s'en aperçoit pas. Il y a très, très peu de personnes qui sont au courant et puis qui sont conscients, qui se préparent à ce genre de choses-là. L'autre chose que tu parlais, c'était sur la notion de tout ce qui est cyberassurance. moi, je suis quelqu'un qui est pas mal épris de liberté. Mais devant la connerie, là, je pense qu'à un moment ou un autre, faut mettre des cadres. Et la notion d'obligation pour les assurances qui veulent prendre, enfin, pour les entreprises qui veulent prendre des cyberassurances, de montrer patte blanche et d'avoir un minimum de choses pour pouvoir éviter d'utiliser l'assurance, je pense que c'est une nécessité, ça devrait être une obligation. Donc, il y a certaines maintenant législations qui obligent, des lois qui font, qui obligent un certain nombre de corporatismes, les bancaires, les milieux financiers, tout ça, qui sont obligés de s'appuyer sur des lois. Mais il n'empêche que ça nécessite une obligation, une contrainte des entreprises de faire les choses pour pouvoir obtenir quelque chose. Dans le cas des cyberassurances, de plus en plus, on se retrouve sur le fait que pour pouvoir prendre une cyberassurance, ben, il faut que tu aies un plan de continuité, il faut que tu aies une cybersécurité qui tienne la route, il faut que tu répondes à un certain nombre d'obligations. Et ça, je pense que c'est vraiment nécessaire. Donc, c'est contraignant pour les entreprises. On le voit avec la loi 25, justement, où c'est une contrainte pour les entreprises. Mais sans ça, en fait, ben, on fait tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant, quelque part, même si je suis épris de liberté, là, que parfois, il y a un moment ou un autre, on contraigne les entreprises, parce que si les entreprises tombent, ben, c'est la société qui tombe derrière ça, là. Donc, ça nécessite de mettre des garde-fous.
Oui, ben c'est ça. C'est le niveau de dépendance qu'on a à l'heure actuelle est quand même immense pour avoir vécu des problèmes. Mais en fait, juste prendre une carte de crédit, on fait frauder sa carte, elle vient bloquer. Donc, si c'est le seul moyen de paiement qu'on a à notre disposition, tout a arrêté. C'est hyper chiant parce qu'à une époque, ça m'est arrivé. J'avais qu'une seule carte. Elle a été fraudée, donc elle a été verrouillée. Et ça m'a pris 2 semaines avant de revoir la carte de remplacement. Fait que j'ai été 2 semaines avec pas de moyen, qui était mon moyen de paiement privilégié à ma disposition. Fait que là, j'ai tombé sur plus sur de l'argent et d'autres éléments, justement, en repli. Maintenant, j'ai plus qu'une carte, justement, pour m'éviter ce genre de situation-là. Et de fournisseurs distincts, là, je sais pas, 2 cartes de la même institution. Fait que vraiment m'assurer que je suis à plusieurs endroits. Puis c'est très intéressant parce que j'ai beaucoup exploré au niveau des cartes de crédit. Les seuils de détection d'éléments ne sont pas pareils selon les fournisseurs, les institutions bancaires. Donc, c'est important d'en avoir plusieurs parce que quand on voyage souvent, il arrive que la carte se fasse verrouiller de façon préventive. Et en voyage, c'est toujours un peu embêtant. Fait que c'est d'avoir une deuxième d'une autre institution qui ne se verrouillera probablement pas selon les mêmes éléments est très important justement à ce moment-là de naviguer avec ce genre de choses. Moi-même, j'ai eu à subir certains avaries avant de commencer à me mettre à pas, mais peut-être contrairement à d'autres, ça m'en prend juste un élément pour avancer, puis parce que ça m'emmerde trop. Tu sais, j'ai plusieurs fournisseurs, on en a déjà parlé sur un autre épisode, j'ai plusieurs fournisseurs cellulaires, j'ai plusieurs liens Internet, j'ai plusieurs, il y a juste mon électricité à l'heure actuelle pour ça qui n'est pas faite, parce que ça, mais je suis sur le point, on a des changements climatiques, fait que les pannes de courant, comme on a connu là, au moment où on enregistre, la semaine dernière, il y a eu le verglas une bonne partie du Québec. Encore une fois, c'est le verglas 2.0. Les gens ont encore été pris de court. Cette fois-ci, c'est beaucoup moins grave que ce qu'il y avait eu dans les années 90 dans le coin de Montréal, parce que là, c'était les grandes lignes de transport qui étaient tombées. Dans ce cas-ci, c'est juste des lignes résidentielles, mais il demeure qu'il y a énormément de gens qui ont vécu très longtemps sans ça. Donc, comment ils font pour se chauffer, comment ils font pour se nourrir, ce qui est dans le congélateur, c'est perdu, tout ce que ça comporte comme situation. Personne n'est prêt à ce genre de choses-là.
Et là, tu vois, sur ça exactement, là, l'expérience, les exercices, ce genre de choses-là. Moi, j'invite en fait toutes les personnes qui écoutent, prenez une journée là et décidez de ne pas utiliser l'électricité. Juste ça. Et vous allez voir dans quelle merde vous êtes. Vous prenez genre le samedi, là, parce que le samedi, tout le monde est à la maison, on veut regarder Netflix, on veut faire des trucs comme ça. Là. Vous décidez pour toute la famille, bon déjà, vous allez vous faire lancer des rushs, c'est clair, surtout par les enfants. Mais vous coupez l'électricité de la maison, là, vous essayez de vivre une journée sans électricité. Alors au Québec, comme tu le dis, hein, on est un petit peu habitué parce que parfois, on a des coupures dues aux intempéries. Mais en France, il n'y a pas énormément de coupures. Je crois que ça se fait vraiment très, très rare, sauf de façon volontaire avec nos syndicalistes, avec les retraites, mais je ferme la parenthèse. Message à toutes ces belles personnes. Donc, faites cet exercice-là pour justement là, vous entraîner à ça. Carte de crédit. Moi, je me suis retrouvé, en fait, ma carte de crédit professionnelle, elle était purement et simplement arrêtée. dans mon institution bancaire, qui est fabuleuse aussi. Je les remercie au passage. Ça commence par un B, ça finit par un O. Et par rapport à ça, en fait, ils m'ont bloqué ma carte parce qu'ils avaient été, ils ont eu un problème sur leur carte de crédit. Ils ont été cyberattaqués, peu importe. Donc, c'est bien qu'ils aient bloqué la totalité des cartes. Et en fait, ils ont changé la totalité des cartes. Sauf que moi, ils m'ont envoyé aucun courrier pour me dire ça. Donc, je me suis retrouvé dans un repas d'affaires où je devais payer le repas justement à un client. Mais en fait, c'est le client qui a été obligé de payer le repas. En termes de business, là, croyez-moi, là, ça n'a pas fait très, très sérieux. Donc, clairement, là, ce genre de choses-là, jouez une journée, là, pas de carte de crédit. Décidez, pareil, un samedi matin, là, vous sortez magasiner sans carte de crédit. Ben, vous allez voir qu'on est fragile par rapport à ça. Donc, ce genre d'exercice-là, ça ne coûte rien. C'est cadeau. On peut s'amuser avec ce genre de choses-là, mais qu'est-ce que c'est percutant? Qu'est-ce qu'on comprend? Comment est-ce que comment est-ce qu'on est attaché à ce genre de choses-là? L'électricité, l'informatique, l'argent plastique, ce genre de choses-là, là. On est tellement habitué là que si on n'a pas là, on est dans la merde. Coupez l'eau aussi à la maison là, vous allez voir. Cherchez les sources d'eau à la maison là où vous pouvez boire de l'eau potable sans que ça arrive du robinet ou sans que ça arrive d'une bouteille. Très beau jeu intéressant pour vous.
On est très dans le survivaliste. On va conclure sur ça. C'est un très beau retour sur ta conférence que j'invite encore les gens d'aller voir s'ils l'ont pas regardé parce que justement l'effet humoristique et nous aide à remettre en perspective et justement nous éveiller correctement à ces éléments-là. Je te remercie pour ton extrême générosité. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi.
Merci.